France Inter.
Hélène Philly pour le journal. Bonsoir,
bonsoir
Hélène.
Fabienne, bonsoir à tous. Pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la toute première résolution adoptée à l'ONU, obtenue grâce à l'abstention des États-Unis, Israël s'offusque tandis que le Hamas se dit prête à un échange de prisonniers rapide. Nous serons à Washington et à Jérusalem en direct dès le début de ce journal. Le plan Vigipirate relevé à son niveau maximum en France après l'attentat de Moscou, 4000 militaires supplémentaires. L'actualité, c'est encore ces nuits de violence en Guadeloupe. Le maire de Pointe-à-Pitre menace de démissionner. Les stages de juin pour les élèves de seconde, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Les larmes de l'attaquant brésilien Vinicius contre le racisme dans le football en Espagne. Et juste après ce journal, faut-il renoncer à l'État-providence pour lutter contre le déficit public? Le téléphone sonne au 01 45 24 7000.
France Inter.
Après plus de 5 mois de conflit et pour la toute première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU vient donc d'adopter une résolution pour un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages retenus à Gaza. Jusqu'ici, Washington s'y opposait en allié inconditionnel d'Israël. On va d'ailleurs voir dans un instant que le vote d'aujourd'hui marque un sérieux coup dans leurs relations. Mais d'abord aux États-Unis. Bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir à tous.
Où cette résolution est passée avec le soutien de la Chine et la Russie et parce que les Américains n'ont donc pas mis leur veto mais se sont abstenus. C'est une évolution majeure de leur position.
Oui, les États-Unis s'opposaient jusqu'ici à ce terme de cessez-le-feu et ils avaient bloqué 3 textes mis au vote depuis le début du conflit. Il aura fallu un week-end de négociations et 9 résolutions en tout pour qu'enfin le changement de pied américain se concrétise. Ce n'est donc pas un vote pour, ce n'est plus un veto, c'est une abstention. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, s'en est expliquée après le vote.
Certaines modifications essentielles ont été ignorées, y compris nos demandes d'ajouter une condamnation du Hamas, et nous n'étions pas d'accord avec tout ce que contenait la résolution. Voilà pourquoi nous n'avons malheureusement pas pu la voter.
La résolution exige un cessez-le-feu immédiat pour les 2 semaines qui restent du mois du Ramadan. Cessez-le-feu provisoire qui doit mener à un cessez-le-feu durable. Et elle exige aussi la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Pour l'ambassadeur palestinien à l'ONU, c'est un jour historique. Ce vote doit être un tournant. Son collègue algérien estime que le Conseil de sécurité prend enfin ses responsabilités. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, écrit sur X que ne pas appliquer cette résolution serait un échec impardonnable. La première conséquence, en tout cas, de l'abstention américaine, c'est un nouveau coup de froid dans la relation avec Israël. Benjamin Netanyahou annule le déplacement d'une délégation de haut rang ici à Washington. Elle devait notamment discuter dans les prochains jours du projet d'offensive à Rafah avec les officiels américains.
Sébastien Paour en direct de Washington et prenons donc à présent la direction d'Israël. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant dans la région et vous confirmez que l'État hébreu ne goûte que très peu l'abstention des États-Unis aujourd'hui à l'ONU.
Oui, les réactions ici sont unanimes. Le gouvernement fait front malgré toutes ces divisions. Benjamin Netanyahou affirme que l'abstention américaine nuit à l'effort de guerre et à la libération des otages. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est exprimé, lui, de Washington. Il était justement en visite diplomatique aux États-Unis pour négocier de nouvelles livraisons d'armes.
Nous n'avons aucun droit moral d'arrêter la guerre à Gaza tant que nous n'aurons pas ramené toutes les personnes enlevées dans leur foyer. Si nous ne parvenons pas à une décision claire et absolue à Gaza, cela pourrait conduire à une guerre sur le front nord.
Le spectre donc de la régionalisation du conflit et d'une guerre ouverte avec le Hezbollah libanais, il est impossible de savoir ce soir si le vote américain peut changer le sort de la guerre, si cette abstention américaine peut changer le sort de la guerre. Le texte conditionne le cessez-le-feu à la libération des otages. Les résolutions des Nations Unies sont contraignantes, mais l'ONU n'a pas les moyens de les faire appliquer. Le Conseil de sécurité peut en revanche imposer, si nécessaire, de nouvelles sanctions à Israël.
Le Hamas, à l'inverse, Thibault, salue l'adoption de cette résolution.
Oui, tout comme l'autorité palestinienne il y a moins d'une heure. Il faut dire que la décision du Conseil de sécurité de l'ONU répond à la principale exigence du Hamas, à savoir une trêve temporaire suivie d'un cessez-le-feu durable. Des négociations sont en cours à Doha, au Qatar, et elles avancent. Israël aurait accepté de libérer 700 prisonniers, dont certains auteurs de crimes de sang contre 40 otages. Ce matin, l'État hébreu attendait une réponse de l'organisation islamiste, mais c'était avant le vote de la résolution des Nations Unies. À voir maintenant si la position israélienne a évolué.
Et Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem, l'ambassadeur français à l'ONU s'est réjoui que le Conseil de sécurité sorte d'un silence, dit-il, assourdissant. Et les politiques français de gauche saluent également cette résolution ce soir. Merci Antonio Guterres de chercher la voie de sortie de la tragédie, dit Olivier Faure pour le PS. Enfin, écrit Jean-Luc Mélenchon, qui se demande toutefois si Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, va s'y soumettre. Ne pas l'appliquer serait impardonnable, prévenait tout à l'heure le chef de l'ONU, notre correspondant à Washington, Sébastien Paour, le disait.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a aussi observé une minute de silence.
En hommage aux 137 victimes au moins de l'attentat de vendredi dernier à Moscou, une demande de la Russie, où Vladimir Poutine persiste à dénoncer l'implication de Kiev, malgré la revendication de la branche afghane du groupe État islamique. Moscou harcèle l'Ukraine, d'ailleurs, ces derniers jours. Trois vagues de bombardements en cinq jours. Ce matin, sur la capitale, Kiev, deux missiles ont surpris les habitants en plein milieu de matinée. Ils ont été abattus par la défense antiaérienne, mais des débris sont tombés sur plusieurs quartiers résidentiels proches du centre-ville, comme celui de Petchersk, où s'est rendu notre correspondant sur place, Camille Magnard.
Un quartier recouvert de poussière et de verre brisé. Toute une aile de l'Institut Kievien des arts décoratifs réduite à un tas de gravats. Olena Osatcha est la directrice de l'Institut.
Ce bâtiment, c'était la salle de sport. Et on a eu beaucoup de chance que le missile ne tombe pas sur les salles de cours où se trouvaient des étudiants. Sinon, il y aurait eu beaucoup plus de victimes.
Parmi les décombres, Mikhailo, 14 ans, a ramassé un éclat de métal déformé par l'explosion. Il habite dans la rue d'à côté.
J'étais en train de dormir, j'ai été réveillé par l'alerte. J'ai regardé mon téléphone, mais tout de suite, j'ai entendu une grosse explosion, juste 20 secondes après la sirène.
Ce matin, les Kieviens ont été pris de court par ce bombardement, en pleine journée, au cœur d'une métropole de 3 millions d'habitants qui n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. Lida regarde les ruines du bâtiment avec le petit garçon de 4 ans dont elle a la garde.
On a entendu les missiles voler et le petit a demandé « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Et j'ai voulu lui montrer pour qu'il comprenne pourquoi il faut courir et se protéger quand il y a une alerte, qu'il voit ce qui peut arriver.
Et encore, dit-on ici, ces dégâts-là ont été causés par de simples débris de missiles détruits en vol. Les modèles tirés par les Russes ce matin étaient des missiles hypersoniques Tsirkon, les plus modernes, les plus destructeurs que compte leur arsenal.
Reportage Camille Magnard à Kiev. 10 personnes ont été blessées dans ce quartier de Petchersk ce matin. Et c'est bien à cause de l'attentat de vendredi en Russie que la France décide de relever le niveau d'alerte dans le pays, désormais placé en état d'urgence attentat, parce que deux projets ont été déjoués depuis le début de l'année, précise le Premier ministre Gabriel Attal aujourd'hui.
La menace terroriste islamiste est réelle. Je le dis, elle n'a jamais faibli. Il s'immisce partout, l'islamisme, où nous baissons le regard, où nous acceptons le pas de vague, où nous laissons l'angélisme triompher. Alors partout, nous ne devons pas laisser le moindre millimètre au terrorisme islamiste et nous agissons partout pour l'asphyxier à l'extérieur de nos frontières, mais aussi à l'intérieur de nos frontières. Nous ne lui laissons aucune chance. Nous allons nous démultiplier encore davantage. Nous allons déployer des moyens exceptionnels partout sur le territoire. La présence policière sera renforcée devant tous les lieux sensibles, notamment évidemment les écoles. Il y a aujourd'hui 3000 militaires de Sentinelles qui sont déployés partout sur le territoire. Je vous annonce que 4000 militaires supplémentaires sont désormais en alerte sur chaque territoire.
À Gabriel Attal au micro de Marie Mollet lors d'une visite à la gare Saint-Lazare cet après-midi. Des collèges et des lycées ont dû rester fermés ce matin en Alsace après l'envoi de messages malveillants sur les ENT, les espaces numériques de travail. Et que se passe-t-il en Guadeloupe ? Depuis quelques jours, les nuits sont agitées à Pointe-à-Pitre. Mardi dernier, c'est une femme muni d'un couteau et d'un tesson de bouteille qui a blessé plusieurs personnes. De jeunes mineurs sont aussi impliqués, des barricades et des barrages érigés, des scènes dont Mayotte a plus l'habitude que la Guadeloupe. Le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, se sent complètement démuni. Il menace même de rendre son tablier, William Delesseux.
Oui, l'élu écologiste publie une déclaration dans laquelle il met sa possible démission sur la table. Il a reçu depuis de nombreux messages de soutien. Des centaines d'habitants lui ont écrit pour lui dire de ne pas démissionner. Harry Durimel reste déterminé à exiger l'arrivée de solutions sur le terrain.
Je ne pourrai pas continuer à être un maire si je n'ai pas les moyens d'exercer mon mandat. Je ne serai pas complice de cette faillite sociale. Il faut une mobilisation sur le moyen terme. Il faut restaurer immédiatement l'ordre républicain. Ce n'était pas juste un coup de gueule. Et je peux être maire si j'en ai les moyens.
Des renforts de policiers, de magistrats, une réflexion sur la prévention de cette violence qui n'a pas de visage précis. Voilà ce que va demander l'élu aux côtés d'une quinzaine de maires au préfet. Ce soir en Guadeloupe, convié à une réunion de crise, l'insécurité se propage sur l'île, constate le vice-président de l'association des maires, Éric André.
Nous avons une dizaine de communes. Leur territoire aussi est atteint par cette montée de la violence sur le département. Il nous faut impérativement agir pour bien concrétiser ces moyens que nous allons donner.
L'enjeu principal pour les élus, redonner un horizon à cette jeunesse perdue. Sur l'île, un jeune sur quatre ne travaille pas, n'étudie pas, ne suit aucune formation.
Merci beaucoup William Delesseux à Pointe-à-Pitre. En un an, le pourcentage de mineurs impliqués dans les affaires criminelles et délictuelles a triplé.
De détenu inconnu à président du Sénégal.
C'est donc le candidat anti-système qui crée la surprise à la présidentielle. Le candidat de l'opposition Bassirou Diomaye Faye remporte l'élection au premier tour avec près de 54% des voix face au candidat de la coalition sortante qui a reconnu sa défaite. Le président sortant Macky Sall a félicité le vainqueur. La transition sera-t-elle apaisée et quel avenir s'ouvre au Sénégal? Omar Waman est notre envoyé spécial.
La principale raison qui a poussé Abdou, professeur de mathématiques, à donner sa voix au candidat anti-système, c'est son projet de lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance.
Et malheureusement, ici dans notre pays, on l'a constaté, hein, vraiment des gens qui, en 5 ans, voilà, sont passés de personnes très pauvres à personnes extrêmement riches. Je sais que ça va être très difficile parce que c'est des habitudes qui sont ancrées. Il y a un déclic qui est là, ça je l'espère bien, pour le peuple sénégalais. Qui souffrent quand même beaucoup. Quand on voit nos jeunes qui prennent la mer, c'est révélateur quand même d'un profond malaise.
Et pour redonner espoir à une jeunesse résignée, Ousmane, un informaticien, attend de Bassirou Diomaye Faye qu'il défende les intérêts des Sénégalais en réduisant l'emprise économique de la France, premier partenaire commercial du Sénégal.
Pour moi, c'est pas une question de combattre la France, mais de copier ce qui est bon pour les Français. Un président français défend les intérêts exclusifs de la France. Et on veut ces mêmes présidents qui défendent les intérêts exclusifs du Sénégal. Et de faire un partenariat avec les pays, tout en étant des partenariats souverains, qu'il n'y ait pas des partenariats où le Sénégal va perdre au profit d'un quelconque partenaire étranger qui soit.
Gagnant-gagnant.
Gagnant-gagnant, oui.
Les électeurs de Bassirou Diomaye Faye rêvent de faire du Sénégal un pays émergent où tous les citoyens auront les mêmes chances de participer à son développement et de profiter des fruits de la croissance.
Reportage Omar Waman, Jérémy Tuile au Sénégal, à l'étranger. Encore Donald Trump face à la justice. Deux infos. D'abord cette date, le 15 avril, pour le début du procès de l'affaire Stormy Daniels en pleine campagne présidentielle. Et puis l'amende de l'ancien président est allégée. 175 millions de dollars réclamés par la justice de l'État de New York contre plus de 450 millions dans une autre affaire au civil. Donald Trump a 10 jours pour payer. Les États-Unis où Boeing est en pleine tourmente depuis plusieurs mois, au point cette fois, bonsoir Maxime Debs,
bonsoir,
de changer de pilote à la compagnie.
Oui, Dave Calhoun, invité à descendre 3 ans après sa prise de commande en 2020, dans un contexte déjà compliqué. Et 2 accidents, 2 catastrophes à l'époque qui avaient terni l'image de l'avionneur. Le crash d'un appareil en Indonésie d'abord, 189 morts en 2018. Celui d'un autre avion de l'Ethiopian Airlines, 157 morts l'année suivante. Et alors que Boeing semblait sortir la tête de l'eau, eh bien tout le monde se souvient, janvier dernier, cette image terrible de cette porte qui se détache en vol de la carlingue d'un 737. De la compagnie Alaska Airlines. Vidéo qui a fait le tour du monde. Publicité catastrophique pour Boeing et finalement fatale à son PDG. Car la double enquête ouverte à la fois par l'aviation fédérale et le FBI commence à livrer ses premières conclusions. Clairement pas bonne, hein, sur 89 audits menés, 33, plus du tiers, ont révélé des défaillances plus ou moins grandes à relativiser. Mais pour le patron, la position devenait intenable avec des choix de sous-traitance dans la chaîne également contestés. C'est le message que quelque chose doit changer qu'envoie quelque part Boeing avec son débarquement.
L'économie en France, ce sont les discussions entre les syndicats agricoles et le gouvernement ce soir encore à Matignon, à la veille du congrès de la FNSEA. C'est nouveau pour les élèves de seconde. Il faut trouver un stage de 2 semaines pour le mois de juin, occuper leur fin d'année tout en leur donnant l'occasion d'affirmer leur choix d'orientation. C'est l'objectif. Encore faut-il trouver un point de chute. La plateforme Un jeune, une solution vient d'ouvrir pour les aider. Mais pour les lycéens que vous avez rencontrés à Beauvais, Faustine Calmel, c'est encore et toujours le bon vieux piston qui fonctionne le mieux.
La plateforme Un jeune, une solution, ses élèves de seconde en ont bien entendu parler.
Aux infos à la télé.
Par ma professeure principale.
Mais aucun ne s'y est connecté, pas vraiment une urgence.
Quand j'aurai la possibilité, oui, j'irai voir dessus. Si y a quelqu'un qui veut bien me prendre.
Catherine cherche dans le milieu hospitalier et s'attend pourtant à des difficultés.
Parce que là, ça va être tous les élèves de seconde en même temps et toute la France. Donc ça va être beaucoup plus compliqué pour chacun de trouver son stage.
Face à l'adversité, certains ont donc anticipé. Alexandre a déjà décroché son stage.
À la mairie de Cugy-en-Bray, je vais visiter un peu tous les services scolaires et les services de mairie, tous les services publics.
S'il avoue un intérêt pour ce secteur, le côté pratique aussi l'a séduit.
Côté de chez moi, j'ai mon tonton qui travaille à la mairie, donc c'est tout de suite plus simple.
Le piston et les relations, c'est ce sur quoi mise Louane, qui espère 2 semaines dans un centre équestre.
En fait, c'est ma sœur qui travaille là-bas, et du coup, je vais voir avec ma sœur s'il y a possibilité qu'elle aille voir sa patronne pour lui demander, lui donner les conventions en même temps et du coup me faire un retour, voir si c'est bon ou pas pour les 2 semaines.
Ceux qui ne trouvent pas de stage seront accueillis dans leur établissement pour parfaire leur projet d'orientation, précise le ministère.
Reportage Faustine Calmel. Et puis en bref, le gouvernement lance des contrôles dans les grands groupes de micro-crèches, comme l'avaient recommandé les inspecteurs de l'IGAS l'an dernier, pour éviter tout scandale comme celui d'Orpea, dit la ministre.
Et voici un joueur qui vide son sac.
Star du Brésil et du Real Madrid, l'attaquant Vinicius Junior a littéralement fondu en larmes cet après-midi. À la veille du match amical Espagne-Brésil, que les deux équipes ont voulu symbolique face aux insultes dont le joueur est fréquemment victime depuis son arrivée à Madrid il y a 6 ans. On le sait engagé de longue date dans la lutte contre le racisme dans le football. Mais à la question aujourd'hui, est-ce que ce combat pourrait prendre le dessus sur sa carrière? Voici sa réponse.
Je veux que dans un avenir très proche, il y ait moins de cas de racisme et que les Noirs puissent avoir une vie normale, comme tout le monde. C'est pour cela que je veux continuer à me battre. Comme je l'ai déjà dit, si ce n'était que pour moi, j'aurais abandonné. Je resterais à la maison et personne ne m'insulterait. Personne ne me ferait quoi que ce soit. Je veux juste jouer au football et faire tout ce que je peux pour mon club et ma famille.
Voilà, Vinicius Junior, dont l'envie de jouer au football diminue au fur et à mesure des incidents racistes qu'il déplore dans le milieu du football. Il a payé 1 million d'euros de caution. Dani Alves est donc sorti de prison en Espagne. Le footballeur brésilien condamné à 4 ans et demi de prison pour viol reste sous contrôle judiciaire. Marie Bochet retire ses skis, 8 fois médaille d'or aux Jeux paralympiques d'hiver. Elle prend sa retraite à 30 ans. Les journalistes sportifs titrent ainsi la reine des neiges range sa couronne. Il faut dire qu'elle est française. Serait-on un brin chauvin? C'est en tout cas ce que sous-entend le baromètre Via Voice, publié à l'occasion des Assises du journalisme et dont Radio France est partenaire. Bonsoir Alexandra Hakoun.
Bonsoir.
Le millier de personnes sondées, là, notamment été sur le journalisme sportif en cette année olympique. Qu'en attendent-ils de ces journalistes sportifs? Ben, un peu de cocorico.
Oui, alors d'abord, il faut savoir, Hélène, quand même, que le traitement médiatique de l'actualité sportive bénéficie globalement d'un regard bienveillant dans l'opinion. 8 Français sur 10 déclarent avoir confiance dans le travail et l'information délivrée par les journalistes quand il s'agit de sport. Mmh. À titre de comparaison, on tombe à seulement 4 sur 10 quand il s'agit de politique. Donc, gros capital confiance en ce qui concerne le sport. Mais grande exigence aussi, puisqu'à 76%, les Français estiment que les journalistes de sport doivent être neutres, ne pas afficher leurs préférences. Ah. Et c'est là qu'on arrive à ce paradoxe formidable comme on les aime en France. Ils doivent être neutres, sauf quand les couleurs de la
France sont représentés. Là, un Français sur deux veut que les journalistes soient engagés, qu'ils disent leurs préférences. Et les JO devraient leur en donner l'occasion. Des jeux que seuls 37% des Français attendent avec impatience, c'est maigre. Même chez les passionnés de sport, on ne dépasse pas les 55% d'impatients. Et là, qu'attendent-ils des journalistes? Eh bien d'abord, une information claire et détaillée sur les différentes compétitions. Et puis qu'ils partagent avec le public l'ambiance et les émotions de ces Jeux Olympiques.
Merci beaucoup Alexandra Akoun. L'impatience se réduira sans doute avec les mois.
Et merci beaucoup Hélène Philly. Vous reviendrez demain.